Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des Films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com. All right.
We hope you find the test a pleasant experience.
Au sommaire aujourd'hui, une émission spéciale polar et thriller. Je vous l'avais promis, cette émission, je vous l'avais promis. Elle est là. Et en termes de thriller, ça va pas rigoler, puisqu'on va parler entre autres d'un summum du thriller paranoïaque, l'un des meilleurs de tous les temps quand même. Bon, vous avez deviné, on aime bien le film. À cause d'un assassinat d'Alan J. Pakula, un film de 74, grande année 74, grand cru évidemment, qui est sorti chez Carlotta Film dans un coffret ultra collector, avec tout ce qui va bien avec, dont évidemment un livre de Jean-Baptiste Auré, parce que qui dit cinéma paranoïaque américain des années 70, c'est obligé que Jean-Baptiste Auré nous fasse un livre passionnant d'ailleurs, comme souvent, avec Jean-Baptiste Auré. Et puis on va parler aussi de Sens Unique de Roger Donaldson. Là, c'est sorti chez BQHL. On va parler d'un film que j'aime beaucoup et que j'ai revu et pour cette émission et qui est toujours aussi bien, franchement, énorme. Colors de Dennis Hopper, un film de 88. Là, c'est sorti chez BQHL. On va parler d'un film un peu bizarre, un peu étrange, que j'aime bien aussi pour d'autres raisons. Cohen and Tate, un film d'Eric Red, un film de 89. Ça aussi, c'est chez BQHL. On abordera un film sorti chez ESC Éditions, alors qui est à la frontière de plusieurs genres, hein, voilà, qui est un film de Ridley Scott, qui est un film de 96, s'appelle L'âme de fond. Alors après le bateau, on ira faire un tour en voiture, on est comme ça, nous, en Formule 3000. On ira chez BQHL encore pour rejoindre Rémi Arlin et son Driven de 2001 avec Sylvester Stallone. On continuera avec Basic, qui en fin de compte, du coup, est le dernier film de McTiernan, John McTiernan pour le cinéma, un film de 2003, commence à dater, sorti chez ESC Éditions. On terminera avec un film de 2024, un film plus récent adapté des romans à succès d'Adler Olson, consacré donc aux enquêtes du département V. Et là, c'est les enquêtes du département V, Promesse, et c'est le titre de cet épisode, entre guillemets, signé Ole Christian Madsen, qui est sorti chez Whiteside Vidéo. L'équipe de Culture Prohibée remercie Odd Dobuzinskis, Maureen Dubu, Lucie Mautier, Timothée Tricard et François Villa pour leur aide sur cette émission. Pour causer polar et thriller, je suis accompagné de mes deux plus paranoïaques amis, évidemment, à savoir Damien Demey, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées, co-animateur de Projection Perdue, le podcast de la Chimératech disponible sur YouTube. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes et les gouvernements qui nous écoutent.
Également présent dans ce studio, Thomas Roland dit le loup-garou Picard, qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglantes chroniques pour diverses agences d'espionnage. Salut Thomas.
Salut Jérôme, salut Damien et salut à tous les pizzaiolos.
Mon cher Thomas, avant les théories à base de pizza et de réseaux sociaux et de QAnon, il y a eu la Parallax Corporation.
À laquelle s'est frotté pour son plus grand malheur le grand Warren Beatty. Hein. Warren Beatty qui incarne dans À cause d'un assassinat de Alan J. Pakulav, Parallax View en anglais, un journaliste qui manque d'assister à l'assassinat d'un président lors d'une cérémonie quelconque, etc. Mais quelques années plus tard, il est contacté par une consoeur qui lui dit « Je suis en danger, on veut ma mort. J'étais présent à l'assassinat de tel président. Tous les journalistes qui étaient présents ce jour-là sont morts, ils ont été tués. Ce ne sont pas des accidents. Lui, il ne la croit pas. » Jusqu'au jour, alors là, on a un cut, une ellipse de dingue où il retrouve sa consoeur à la morgue. Et là, Warren Beatty, enfin son personnage, commence à avoir de sérieux doutes sur ce qu'elle lui raconte. Et donc, il se met à enquêter. Et il se met sur la trace d'un mystérieux personnage qui était lié à la mort de ce président. Et il va de fil en aiguille remonter jusqu'à cette Parallax Corporation où il va entre autres passer un test. Donc c'est un film effectivement complètement paranoïaque et c'est la grande période de Alan J. Pakula qui refusait là de faire des films complètement où il refusait tout effet spectaculaire. Il ménage un suspense sans musique, sans rien, juste en travaillant les sons. Il y a une scène assez formidable, c'est la scène dans un avion où Warren Beatty suit un personnage qu'il a reconnu, qu'il suspecte de faire partie de cette Parallax Corporation et de fomenter un complot ou d'avoir pris part au complot de l'assassinat de ce président. Et donc, il prend l'avion à sa suite, mais le monsieur ne rentre pas dedans et il découvre en fait que l'avion serait piégé. Et là, il y a une longue séquence dans l'avion où il essaye de faire prendre conscience au pilote que l'avion est piégé pour qu'il rebrousse chemin. Et c'est une séquence de suspense assez formidable, je trouve. Et tout le film est comme ça. Il n'y a pas de musique spectaculaire, pas d'effet spectaculaire. Il y a des scènes d'action, il y a du suspense, mais jamais il en fait trop, quoi. Et ça, on retrouve ça dans d'autres films, dans plusieurs de ces films, comme Les Hommes du Président, Clout. Et par contre, il y a de la musique, mais la musique de Michael Small. Moi, j'aime beaucoup Michael Small. Je trouve que c'est un compositeur qui est plutôt assez oublié, dont on a déjà parlé dans l'émission, mais c'est un compositeur dont on parle peu. Et donc, c'était le compositeur attitré à une époque d'Alan J. Pakula. Et donc, à cause d'un assassinat, bien sûr, c'est un film qui parle de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, avec toutes les théories du complot qui ont accompagné cet événement marquant des États-Unis.
Et je pense qu'on peut dire que c'est un chef-d'œuvre. C'est un immense film. C'est pas galvaudé que de dire ça. Warren Beatty en plus, c'est assez extraordinaire, parce qu'on sait que Warren Beatty, c'est pas un simple acteur. Warren Beatty, c'est aussi c'est une star, une vraie star. À l'époque, en plus, il est une star. En plus, une star qui fait la jonction entre le grand public et le nouvel Hollywood. Particulier, quand même. C'est-à-dire qu'il y a eu Bonnie and Clyde, Arthur Penn, il y a Shampoo, Dal Ashby. Et il est à la fois apprécié du public qui va voir des blockbusters que apprécié du public qui veut voir des films intello. Ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'époque, Warren Beatty vient de faire la campagne électorale du Parti démocrate. Il s'est énormément investi. Il a investi énormément d'argent, mais aussi de sa personne. Hein. Il a fait des meetings, et il a mis sa carrière en stand-by. Et c'est un échec. Et il est complètement désabusé. Et je pense que Pakula l'est pas mal aussi à l'époque. Il est complètement désabusé. C'est quand même un militant complètement détruit, en fait, par l'échec de cette campagne. C'est vraiment quelque chose qui est important à prendre en compte, je trouve, que quand on apprécie le film, parce que c'est vraiment en lien aussi direct avec la tonalité du film. C'est un film, tu disais, il y a refus du tout spectaculaire, il y a même refus de l'histoire d'amour, il n'y a pas de love story, il n'y a rien, et pourtant c'est passionnant, c'est terrifiant comme film, c'est un film en fait où, en plus Pacula, je pense moi que c'est le meilleur film de Pacula. Il y a des films de Pacula qui sont sous-estimés, comme l'affaire Pélican et tout, qui est quand même très bien, mais après il va faire Les Hommes du Président, tout le monde retient Les Hommes du Président, mais moi je préfère celui-là et je préfère Clout, je préfère ces deux-là en fait. Et qui sont très... Les Hommes du Président, c'est sensationnel, mais je veux dire, mais je préfère ces deux-là. Dans Clout, il y avait encore une part d'espoir. Là, il n'y en a plus du tout. Clout, où en plus, Jane Fonda n'a jamais été aussi belle que dans Clout, je crois qu'on est tous d'accord pour dire ça, et qui fait... C'est un grand film paranoïaque. Et dans Clout, ce qui est étonnant, c'est de voir aussi le sort réservé au personnage. Il y a de l'espoir encore dans Clout, et pourtant, c'est un rebut de la société, le personnage de Jane Fonda, c'est une prostituée, et c'est elle qui l'emporte. Il y a une sorte de morale quand même. Là, on bascule dans autre chose. Il y a plus de morale, il y a plus de héros. C'est la fin des héros. C'est un film qu'on peut mettre aussi en parallèle avec Le Conversation secrète de Coppola. Je pense que c'est indéniable. Et ce qui fait que aussi le film de Pacula est très très réussi, c'est qu'en fait, Pacula, il connaît très très bien le cinéma d'Hitchcock, donc il y a une sorte de... Il reprend tous les procédés de mise en scène d'Hitchcock, mais en les inversant, c'est-à-dire en leur donnant... C'est une sorte d'Hitchcock avec une tonalité sombre, en fait. Parce que ce type perdu au milieu d'un engrenage, d'une conspiration, ce type que tout accuse, ce type... C'est un personnage hitchcockien, en fin de compte, hein, voilà. Et là, on est dans un pays... où c'est la fin des idéaux, il y a eu la famille Manson, il y a eu les assassinats de leaders politiques progressistes, on est dans un pays qui va petit à petit atteindre un point de non-retour et s'enfoncer toujours plus dans la noirceur, avec une gradation, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les spécialistes des États-Unis vont vous dire que, en fin de compte, George Bush Jr., c'est un génie à côté de Trump. Et pourtant, quand on regardait à l'époque George Bush Jr., on disait la même chose que ce qu'on dit de Trump aujourd'hui. Sauf qu'évidemment, ce n'est pas les mêmes. Hein. Attention, hein, moi, je ne suis pas spécialiste de politique étrangère. Mais ce que je veux dire, c'est que le pays va s'enfermer dans quelque chose qui transparaît aussi dans le film de Coppola, dans Conversation secrète, mais parce que c'est aussi un film comme le film de Coppola où on est sur aussi quelqu'un qui devient fou et seul contre tous en étant persuadé d'être détenteur de la vérité. C'est assez dément. Et puis je suis étonné que tu l'aies pas dit, Thomas. C'est aussi pour moi un film hollywoodien à grand spectacle, sans spectacle, avec un côté expérimental. C'est des choses qu'on n'avait pas vues depuis Frankenheimer dans ce type de thriller paranoïaque. C'est un grand du thriller paranoïaque aussi, comme Seconds, comme L'Opération Diabolique. Et là, on retrouve cette veine-là. Et je suis étonné que tu ne l'aies pas dit. Il y a quelque chose d'antonionien, il y a quelque chose de profession reporter, il y a quelque chose dans la trajectoire de cet homme. Bon, parce que je ne suis pas grand fan d'Antonioni, mais enfin, c'est un grand cinéaste, je ne vais pas dire le contraire. Et là, il y a quelque chose de ça dans le film, là.
C'est ce qui est hors champ, ce qui est là, qu'on ne voit pas, comme dans Blow Up, quoi. Mais tu disais que c'est un personnage qui est coupable, etc. Mais en même temps, chez Hitchcock, c'est un personnage qui est coupable, qu'on désigne comme coupable au départ, et qui fait tout pour s'innocenter. Tandis que là, lui, il part de nulle part, en fait. Mais lui, il s'enfonce. On dirait qu'il fait tout pour qu'on le désigne comme coupable. Il fait que des conneries, en fait. Et enfin, on se demande s'il est vraiment intelligent, ce personnage-là. Et il y a aussi un truc, c'est que là, dans la mise en scène, ce sont des intérieurs sombres, éclairés en demi-teinte, les bureaux des journalistes, ou même sa pauvre chambre. Il habite que dans une petite chambre sombre. Et tout le film est comme ça, même l'intérieur du... À un moment, il va chez un shérif qui a essayé de le tuer. Même son intérieur, l'intérieur du shérif, elle est sombre. C'est que des intérieurs sombres comme ça. Ou alors, c'est des extérieurs avec des grands bâtiments rectilignes qui écrasent les personnages. Ah non, c'est un grand film.
Et c'est tout ce que tu dis là, il en parle, Jean-Baptiste Auré, dans le livre. Lui, il explique que, parce que c'est un coffret ultra collector, donc il y a un super bouquin avec. Et dans ce bouquin, Jean-Baptiste Auré, lui, il explique le travail du directeur de la photo, Gordon Willis, et il explique, selon Jean-Baptiste Auré, bon, je suis d'accord avec lui, hein, Willis invente une large part de l'esthétique du cinéma paranoïaque de la décennie à venir, en donnant un rôle dramatique à la lumière. Et en fait, ces conflits-là, ce clair-obscur, ils symbolisent une Amérique dévorée par sa part d'ombre. Et aujourd'hui, on peut dire que... Alors tu as démarré cette émission par une boutade en parlant des QAnon, mais on peut dire qu'aujourd'hui, la part d'ombre... Elle a dévoré la lumière. On espère que la lumière va revenir, mais en tout cas, elle a dévoré la lumière. Et c'est quand même un film où aussi plane, c'est pour ça que c'est normal, j'ai envie de dire que Jean-Baptiste Auré écrive ce livre, mais où aussi plane l'ombre du travail d'Abraham Zapruder, évidemment. Et ce film, qui a une esthétique, qui a créé une esthétique à son corps défendant, ce film de l'assassinat de Kennedy. Donc c'est un film passionnant, c'est un chef-d'œuvre, c'est un grand film, c'est un... avec French Connection, l'inspecteur Harry de Don Siegel, c'est pour moi, ça fait partie des... Alors là, on est plus dans le thriller, mais ça fait partie, dans le polar, des 3-4 meilleurs films de cette décennie. C'est des films extraordinaires. Et c'est vraiment super. Je trouve que Carlotta ait remis en lumière ce film, dont on parle assez peu en fin de compte. Hein. Et cette belle édition de Carlotta Film, c'est vraiment un beau choix éditorial, parce que c'est un film qui n'avait pas été mis en valeur dans ses précédentes éditions et qui mérite ça. Vous écoutez Culture Prouille. Très différent, Damien. Maintenant, on va passer au film de Roger Donaldson, qui est sorti chez BQHL. Alors, qui met en vedette, bon, Kevin Costner, évidemment, et Gene Hackman, d'ailleurs, dont on parlait à l'instant, puisqu'on parlait de Conversations secrètes de Coppola, et Sean Young, voilà, la belle Sean Young, qu'on a un peu oublié aujourd'hui, une actrice très très intéressante qui est très bien aussi dans Blade Runner. Et on est là, mon cher Damien, dans... on parlera tout à l'heure de Basic, de McTiernan, mais dans toute cette... c'est presque un sous-genre aux États-Unis. Il y a même des films de serial killer, il y a des films de procès. Et puis, évidemment, on pense au dernier film de Friedkin, l'ouragan sur le Caine, enfin, la mutinerie du Caine, dans le titre français, là, qui est dispo en ligne chez Paramount. Toute cette vague, en fait, de films qui se passent dans le milieu militaire, qui est vraiment un sous-genre très américain. Et là, on a... un thriller en milieu militaire, quoi, en fait, quelque part.
Sens unique de Roger Donaldson, sorti chez BQHL, est en effet un thriller militaire, c'est-à-dire que tout va se passer à l'intérieur même d'unité militaire, enfin d'unité. Ça va être plus compliqué que ça. En fait, le scénario, c'est un officier de marine qui est joué par Kevin Costner, qui s'appelle Tom, qui se retrouve chargé d'enquêter sur le meurtre d'une femme parce qu'il a été promu et il s'occupe un peu... d'un poste qui se rapproche un peu de la surveillance, mais sans faire partie du FBI ou de la CIA ou de la NSA. Donc c'est un poste très particulier. Et en fait, s'il doit enquêter sur cette femme, c'est parce que cette femme est morte. Et en fait, il ne doit pas justement enquêter sur cette femme, il doit enquêter sur son amant, parce qu'il semblerait que son amant ait commis le crime. Le problème, c'est que son amant, c'était Kevin Costner, et que tous les indices qu'il trouve, en fait, pointent dans cette direction. Alors, comme tu l'as dit, Jérôme, on a Gene Hackman qui joue un politicien et qui joue également l'amant de la maîtresse tuée. On va voir très vite qu'on sait qui est le meurtrier. Sean Young joue malheureusement la maîtresse qui va y laisser sa vie, mais il y a un autre personnage en plus, il y a Will Patton qui joue l'ami de Tom et qui va finalement se montrer pas être vraiment tant son ami que ça. Je vais commencer par un défaut entre guillemets du film, c'est que le film c'est un flashback, c'est-à-dire qu'on commence directement par Kevin Costner qui est dans une salle enfermée en train de se faire interroger, et en fait tout le film ça va être le flashback qui va expliquer sa vie d'avant, donc ça veut dire qu'à la fin on sait qu'il finit dans une sorte de salle d'interrogation. Le film va d'abord développer un peu cette histoire d'amour, leur rencontre au hasard, le fait que lui parte en mission, sauve la vie d'un homme, revient et décoré, et finalement obtient ce poste de supérieur et qui continue cette histoire d'amour avec cette femme, sauf que cette femme, c'était l'amant de Gene Hackman qui joue un homme politique puissant, et il va se retrouver un peu en conflit avec, parce qu'elle ne veut pas, d'une certaine façon, perdre la personne qui est une grande source monétaire pour elle. La raison mise en avant, c'est pas l'argent, mais on voit que c'est un des éléments qui gêne. Et la personne pour qui elle aime le plus, sauf qu'au moment où elle va vouloir évoquer le fait qu'elle aime un autre homme, Gene Hackman va péter un câble et ça va très mal finir sur elle. Et à partir de ce moment-là, Gene, pour cacher justement le fait que c'est lui le coupable, il va décider d'utiliser Yuri. Yuri, c'est un fantôme, un espion russe qui serait là depuis des années, qui serait à l'intérieur. Ils vont dire, bah en fait, l'amant c'était Yuri, et Yuri va falloir le trouver parce que c'est lui forcément le coupable, et c'est Kevin Costner qui va devoir trouver ce coupable. Et à partir de ce moment-là, le film connaît une excellente montée en tension parce qu'il y a plein d'éléments qu'on a posés au cours du film qui ressortent parce que ce sont des éléments qui pointent vraiment dans sa direction. Il y a un moment où ils partent en week-end pour une lune de miel, au moment où ils retrouvent le corps, ils font des analyses de ce qu'elle a dans le corps, ils sont en mode bah, selon ce qu'elle a mangé, on arrive à retrouver où elle était, ils arrivent à retrouver l'endroit où ils ont passé la lune de miel, du coup ils arrivent à retrouver les personnes qui l'ont fréquenté, et plus le film avance, plus on se retrouve avec des personnes qui, pour eux, Kevin Costner est forcément le coupable. Et Kevin Costner, qui gère l'opération, fait tout pour retarder ça et prouver que bah, il est totalement innocent. L'un des éléments qui fonctionne aussi, c'est que toutes les personnes, dans l'idée de base, se sentent un peu innocents. C'est-à-dire que nous, on sait qui est le coupable. Costner a une idée de qui est le coupable, mais il faut attendre vraiment que le film avance pour que... Bah, ça devient littéralement une impasse. Le titre original, c'est No Way Out. Le titre québécois, c'est Impasse. Et c'est là où se dirige Kevin Costner. Même si le titre français, c'est Sens Unique. Il y a juste un autre point que je veux remettre en avant, c'est que le fait que l'histoire, ce soit un flashback. Parce que quand arrive la fin du film, c'est une fin qui rend l'entièreté de l'histoire très trouble. C'est une chute à la fin du film qui est très étrange, mais qui en fait une enquête passionnante.
Après, à cause d'un assassinat qui est sorti chez Carlotta Film, et Sens Unique, qui est sorti chez BQHL, on va maintenant parler d'un film également sorti chez BQHL, un film de 88, un film qui a marqué son époque. Hein. Je me rappelle, la sortie de ce film, ça a été un vrai, comment dire, il y a eu une grande promo, et le film, à l'époque, moi, m'avait profondément marqué, à la revoyure, ben, je le trouve toujours aussi bon, c'est ça qui est bien, et un film qui est un film culte, pour tous les fans de hip-hop, il est considéré comme, de par sa BO, sa représentation du monde des gangs, puisque dans ce film de Dennis Hopper, donc, qui s'appelle Colors, on voit la réalité à Los Angeles des Bloods et des Crips. D'ailleurs, il y a des vrais membres des gangs qui jouent dedans. D'ailleurs, summum de la... Comment dire de, comme quoi le film est à la validation, en fait, des gangs. C'est même la BO, parce que dans la BO, on va retrouver Eric B. et Rakim qui ont tâté de la zonze. Hein. Il y a eu, et surtout Ice-T. Si on oublie aujourd'hui, Ice-T, c'est un acteur un peu mainstream qui joue dans des séries télé US qui sont sans cesse rediffusées. Mais Ice-T, ça a été un vrai voyou, un vrai gangster qui vivait avec une porn star et qui faisait des pochettes hyper sexuellement agressives ou hyper violentes. Après, il fera Body Count, d'ailleurs, où il fera une chanson Killer Cop qui va faire un scandale aussi, et qui a été un voyou célèbre parce qu'il y avait un athlète incroyable aux États-Unis qui avait fait une pub dans laquelle il faisait voir sa carte Visa. Il disait « Faites comme moi, prenez une Visa ». Enfin, lui, il a repris le code de la carte Visa, il a détourné tout son fric parce que c'était vraiment son numéro. En fait, il s'est dit « Je tente le coup, on verra bien ». Voilà. Mais c'était un vrai dur à cuire, un vrai gangster, et qui a fait pas mal de zonzons et tout ça. Alors, pas, évidemment, pas pour des crimes de dingue, hein, sinon vous connaissez le système carcéral aux États-Unis. Il est noir, s'il avait multiplié des crimes graves, il serait en prison pour 2000 ans. Mais en tout cas, il a une vraie... comment dire, il a une crédibilité qui vient de la rue. Et donc, et il fait cette fameuse chanson Colors, hein, qui est vraiment le tube de cette BO. Et puis, c'est quand même étonnant de retrouver Dennis Hopper à la mise en scène. Pour moi, c'est son meilleur film. Dans cette histoire de rookie avec un ancien, avec en plus un casting très très bien trouvé, puisque ce vieux flic... qui est un ancien de la fameuse brigade qui, comment dire, le crash, c'était l'unité anti-gang de Los Angeles, qui a vraiment existé. Et lui, il fait, il joue le rôle de ce flic très très posé, Robert Duvall. Il est vraiment dans la négociation, ça. Et puis il y a ce rookie qui est interprété par Sean Penn, qui lui est qui est Sean Penn, hein. Je pense que Sean Penn, dans la vraie vie, il est un peu, en tout cas à l'époque, il aimait bien faire le coup de poing et tout, il était un peu comme son personnage dans le film, donc il est bien casté, c'est-à-dire un jeune flic un peu fou, un peu dingue, un peu violent, un peu borderline, et qui a en plus comme petite copine Maria Conchita Alonso, qui est une super actrice, très très racée, qui a beaucoup de personnalité et qui a un peu disparu des écrans, qui a eu quelques titres, qui a joué dans quelques films comme ça, qui ont le malheur de s'être un peu crashé en fait. Ça, c'est un de ses rôles les plus connus, mais on se rappelle d'elle par exemple dans le Running Man de Paul Michael Glaser. Enfin, c'est vraiment une actrice super intéressante. Et donc on met tout ça ensemble avec en plus des acteurs qui deviendront célèbres comme Damon Wayans, qui a un petit rôle, Don Cheadle dans le rôle d'un caïd terrible, et on a ce film qui pour moi est un super polar des années 80 aux États-Unis, qui nous sort un peu du film. En plus, j'ai du mal même à croire que c'est un film de Dennis Hopper, mais peut-être que le côté réel, juste et documenté justement prouve que c'est un film de Dennis Hopper, parce que c'est plutôt un film fait à l'européenne en fait. Il s'est énormément renseigné, il a pactisé avec les gangs pour avoir le droit de travailler avec eux, enfin, il a reçu l'aval des gangs en fait, en quelque sorte, pour pouvoir mettre en scène ce film qui du coup est teinté d'un réalisme assez, assez prégnant. Et au final, ça donne un film très âpre, très étonnant, et ça nous sort de tous ces films américains des années 80 qui étaient, alors j'aime bien ça, des buddy movies, tout ça, mais qui étaient très légers, qui étaient très... Et là, on a un vrai polar dur, très dur, et qui va marquer l'histoire du cinéma, mais qui indirectement va marquer l'histoire de la télé, puisque derrière, il y aura des séries télé où on retrouvera cet univers aussi issu de Colors. Colors, c'est un film très important, en fait, dans l'histoire du polar américain.
Au départ, c'est ce que ça aurait dû être, un simple buddy movie. C'était un scénario qui avait déniché Sean Penn. Et c'était un flic blanc et un flic noir à Chicago qui démantelait un trafic de drogue. Et c'est Dennis Hopper qui a dit c'est de la merde. Et qui a fait non, il faut la réécrire. Et donc c'est devenu Colors. Et donc c'est effectivement une vision de Los Angeles plus proche de celle de William Friedkin que de celle de Richard Donner. Hein. Et c'est vrai que la mise en scène est âpre, elle est sèche. C'est limite documentaire, quoi. C'est vraiment un film. Qui n'est pas spectaculaire. Enfin, il y a une poursuite en voiture qui se termine mal d'ailleurs, hein, mais c'est pas spectaculaire. Et il y a quand même un attachement qui est fait aux personnages, tous les personnages, que ce soit les membres de gang, etc. Il y a vraiment une humanité qui... Enfin, moi, j'ai pas vu tous les films de Dennis Hopper, j'en ai vu que trois avec celui-là, qui sort un peu du lot par rapport à ce que j'ai pu voir Last Movie ou alors Easy Rider. Je trouve qu'il y a une humanité dans ce film que je ne vois pas forcément dans les autres. Voilà. Parce que peut-être qu'ils sont filmés de façon un peu plus expérimentale, comme Last Movie. Et c'est un film qui apparemment a fait prendre conscience de la réalité des gangs aux politiques à Los Angeles. C'est un film qui marque une date au niveau sociétal à Los Angeles. Parce qu'avant, les gens ne prenaient pas attention à l'existence des gangs à Los Angeles. I am a nightmare walking, psychopath talking, king of my jungle, just a gangster stalking, living life like a firecracker, quick as my fuse, been dead as a death, back
the colors I choose, red or blue, cause of blood, it just don't matter. Sucker died for your life when my shotgun scattered. Colors, the gangs of LA will never die.
Vous écoutez Culture Prohibée, spécial polar et tri. Vous l'aurez compris, on vous recommande vivement Colors pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Pour ceux qui veulent le revoir, la copie est superbe. C'est un film de Denis Hopper sorti chez BQHL. Alors, toujours chez BQHL, un autre film qui est sorti alors là, l'année suivante, Cohen and Tate, alors, sorti un film d'Eric Red. Alors, Eric Red, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose. Bon, il y a des cinéphiles dans ce studio, donc je sais qu'à vous, ça vous dit quelque chose. Mais voilà, Thomas me fait un signe d'autostoppeur. Et oui, parce que Eric Red, c'est à la fois le scénariste de The Hitcher, le scénariste de Aux frontières de l'aube et de Blue Steel. Et alors, c'est intéressant, ce Cohen and Tate d'Eric Red, parce que justement, il y a un peu de The Hitcher, et il y a un peu aussi du côté aux frontières de l'aube dans ce film. Film bancal, hein, je le dis tout de suite, mais film assez étonnant. Parce que c'est un film qui va... C'est gonflé, hein, c'est une série B, c'est fauché, parce que ça se passe globalement... En gros, c'est un gamin de 9 ans qui a été témoin d'un truc, et puis la mafia le cherche pour... et il y a un clan mafieux qui le cherche pour le faire parler... Pas pour le tuer, pour le faire parler. Bon, ils le tueront après, je suppose, mais bon, pour le faire parler. Et donc, ils envoient deux tueurs impitoyables récupérés. Au début, le gamin, il est planqué par le FBI dans un coin paumé. Alors, c'est assez drôle. Ça fait des beaux plans de cinéma. Mais une maison perdue au milieu de nulle part, évidemment, c'est un peu plus suspect que si le gamin était noyé dans la foule au milieu d'une ville. Mais bon, moi, je dis ça, je dis rien. Hein, mais bon. Et du coup, il y a deux tueurs qui vont venir le récupérer. Un vieux tueur avec un appareil auditif qui est un peu fatigué, qui est très monolithique, qui est joué par Sheriff Brody, les gars. Eh oui, qui est joué par Roy Scheider. Et puis l'autre qui est un peu foufou, enfin pas qui est un peu foufou, qui est un psychopathe avec des sautes d'humeur, qui est cyclotimique, qui est joué par Adam Baldwin, oui, la fratrie Baldwin, c'est son fin, sortait de Full Metal Jacket et puis qu'on reverrait dans ce chef-d'œuvre incroyable qui est Independence Day. Thomas, c'était de l'ironie, Thomas. Et comment. Et là,
pas pour moi.
Je sais que ça n'en est pas pour toi. Et c'est très bien comme ça. Et donc là, en fait. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux tueurs vont donc devoir parcourir une grande partie des États-Unis pour ramener le gamin à ces pontes de la mafia. Et ce qu'on va voir, c'est alors, comment le gamin aussi va essayer de les monter l'un contre l'autre, comment le feu et la glace vont s'affronter, comment le vieux va affronter le jeune, tout ça avec ce gamin qui est au milieu. Alors, le film dure à peine 1h22-23, je crois. Mais malgré tout, il y a quand même quelques longueurs. Toutefois, on peut saluer, parce que le film, c'est... À l'époque, il a reçu une volée de bois vert, hein, quand même. Hein. Et aujourd'hui, il est réévalué. Pourquoi ? Parce qu'Eric Red, en fait, c'est un mec intéressant. Il fera aussi Body Parts, qui est un thriller intéressant. Un truc bien sadique, d'ailleurs. Un drôle de film. Là, Thomas opine du chef. Je reconnais bien là, mon vieux Thomas. Et dans Cohen and Tate, il y a quand même des moments assez étranges. Et ce Cohen and Tate, il a un mérite incroyable. C'est-à-dire que, quand même, notre ami Eric Red, un peu comme on parlait juste avant de Colors, il partage ça avec Colors, c'est-à-dire de casser cette logique du buddy movie qui fait vraiment qui est vraiment en tête du box-office dans les années 80. Et parce que quand même, ce Cohen and Tate, quand on voit le titre, quand on voit l'affiche, on se dit, il y a deux... Quand on sait que... Le pitch, c'est ça. Un gamin a des infos sur la mafia, il est pourchassé, il est poursuivi. On se dit, c'est les deux... Quand on voit l'affiche, on se dit, c'est les deux gars qui vont le protéger. Non, c'est deux gars qui veulent l'amener à la mafia. C'est deux gars qui d'ailleurs, le plus jeune est même prêt à le flinguer, hein, à flinguer le gamin. Et c'est un vrai faux buddy movie, parce qu'en fait, c'est un buddy movie avec deux salopards. Donc c'est quand même une bonne idée. Après, c'est un road movie, donc on se déplace, il y a une esthétique. Ça ressemble plus, en fait, à un film noir. D'ailleurs, on pense, très sincèrement, on pense au Hitchhiker, enfin, du Voyage de la Peur de Aida Lupino. Évidemment, c'est un tout petit budget, donc il y a des moments On voit bien que la voiture, elle bouge pas et qu'il y a de la lumière derrière pour essayer de nous faire croire que ça roule. Alors des fois, les lumières sont pas raccord, il y a des moments un peu foirés comme ça, mais par contre, il y a des moments très beaux. Il y a le début du film, un beau panoramique où avec cette maison perdue dans le désert, il y a à un moment aussi, le gamin arrive à s'enfuir et on se retrouve au milieu, vous savez, de ces gros trucs à foreuse, là, comme on voit au Texas, là, pour percer le sol. Et il s'est filmé d'une certaine manière, on se croirait quasiment dans un film fantastique, avec une esthétique très, très réussie. On sent qu'il y a une patte, il manquait du pognon à Eric Red, en fait. Parce que s'il avait eu plus de pognon, on sent que ça aurait été un autre film. Voilà. Et il en reste une série B bien sympathique qui retrouve par moments des atours de films noirs de la grande époque. La musique de Bill Conti, elle est assez chouette. Elle est plutôt bien utilisée. La fin du film est très nihiliste et surprenante, très très surprenante. Comme souvent chez Eric Red, hein. D'ailleurs, il suffit de voir les films adaptés de ses scénarios. Bon, The Witcher, c'est quand même pas... c'est quand même assez surprenant, quand même, même aux frontières de l'aube. Vraiment, c'est... Moi, je suis assez content d'avoir redécouvert le film avec, je vous dis, ces beaux travelling latéraux du début, de la fin. Son humour noir et puis ses excès de violence. Il y a par moments des scènes ultra violentes. On ne sait pas pourquoi. Il y a des scènes qui pourraient être des scènes de meurtre, des trucs comme ça, qui pourraient être plutôt. Enfin, il n'y a pas rien d'en montrer autant, mais alors là, ça gicle de partout. On sent qu'il aime bien le gore. Ce serait bien qu'effectivement tous les films d'Eric Red se voient dotés de si beaux écrins que ce Cohen and Tate, donc, qui est disponible chez BQHL. Mon cher Thomas, maintenant, je vais me tourner vers toi, car je sais que tu aimes les frères Scott, que tu aimes Ridley. Et je voudrais que tu nous parles d'un film avec un acteur que, comme tous les cinéphiles, tu aimes, Jeff Bridges, bien évidemment. Un film qui est sorti par ESC Éditions. Un film qui s'appelle « L'âme de fond ». Et un film qui est quand même aussi un peu étrange à classifier, parce que, il y a un petit côté... il a souvent été catalogué de « Cercle des poètes disparus en mer ». Voilà. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a aussi des aspects thriller. Enfin, un film étrange et qui tombe dans le moment où la carrière de Ridley Scott, quand même, elle n'est pas au mieux. Il fait ça avant Gladiator, qui va le ramener vers le succès.
En effet, quand j'avais vu le film la première fois, je me suis dit, bon, c'est le cercle des poètes disparus, aquatique. Mais à la revoyure, je l'ai quand même réévalué. Je trouve que Ridley Scott s'en sort plutôt pas mal. Bon, c'est un film du passage à l'âge adulte, hein, une bande d'adolescents qui passe à l'âge adulte avec tout un tas de péripéties qu'on a déjà vues dans d'autres films, etc. Mais je trouve que Ridley Scott s'en sort bien, notamment parce qu'il reste chichiteux, hein, dans sa mise en scène, toujours une mise en scène chichiteuse avec des contre-jours, une texture d'image assez froide, assez éclatante, et on retrouve bien ça, et je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Donc l'histoire, en fait, ce sont des jeunes qui embarquent sur un bateau école pour apprendre la vie, en fait, voilà. Et donc il y a plusieurs des différences sociales entre les personnages, entre les jeunes. Il y a le jeune garçon qui est là parce que son père l'a mis là, qui est un peu un fils de riche, qui n'arrive pas à se démarquer de l'autorité de son père, qui est tout le temps là, en fait, qui vient le chercher à certaines étapes, là où le bateau fait des étapes, etc., plutôt que de le laisser avec ses potes. Il y a celui qui, en fait, ne sait pas lire, ne sait pas écrire, donc il se valorise par un côté brutal, en jouant les durs, etc. Donc il y a tout un tas de lieux communs, un peu comme ça, mais je trouve que ça fonctionne bien, que Ridley Scott arrive à insérer une certaine humanité dans ses personnages. Et par contre, moi, je fais... c'est un film d'aventure, il y a du souffle, et c'est aussi... Bon, à un moment, ça devient un film catastrophe, après, ça devient une sorte de film de procès, et qui, à mon avis, là, c'est le gros défaut du film, ça tombe complètement dans l'emphase, avec, finalement, tout le monde s'aime, etc. Ceux qui avaient trahi font un monde honorable. Enfin, la fin, je la trouve gnangnan au possible. C'est ça, je trouve que ça colle pas du tout avec le reste du film, enfin, ou pas beaucoup, parce que le film n'est pas non plus un film sombre ou dur. C'est on va dire un film d'aventure qui remplit bien son rôle de film de passage à l'adulte, de coming of age, comme on dit maintenant, hein. Et je pense que c'est un Ridley Scott qui mérite d'être réévalué.
L'âme de fond de Ridley Scott, je suis d'accord avec toi, Thomas, c'est que c'est un beau film et que la fin arrive un peu de manière assez ambiguë. Et en fait, il ne peut pas vraiment échapper parce qu'il s'inspire d'une histoire vraie pour raconter son histoire qui reprend le naufrage de l'Albatros. Moi, j'ai été porté assez vite dans le film dès le début avec la musique de Jeff Rona. Je trouve qu'il y a une belle musique et qui participe justement à tout ce côté épique qui va arriver un peu derrière, sauf que quand tu commences ton histoire avec une histoire vraie et que tu as un narrateur qui est joué par Scott Wolf qui commence à raconter l'histoire comme un journal, pour moi ça annonce qu'il va y avoir une catastrophe. Et en fait, tu oublies ça au cours du film parce que c'est une belle histoire justement de fraternité, c'est-à-dire que la plupart des personnages ont des problèmes avec notamment leurs parents, surtout avec leur père qui soit les rejette, met trop de pression sur eux, et c'est quelque chose dont ils arrivent à guérir grâce à ce voyage en bateau qui est un lieu d'introspection mais aussi un lieu de camaraderie qui permettent de créer de nouveaux liens et qui permettent de se défaire de tout ce qu'ils ont pu mal vivre. Et le film fonctionne d'autant plus en passage à l'âge adulte que c'est une bonne introduction à l'univers des bateaux, parce qu'il faut apprendre assez jeune à manœuvrer un bateau. Donc derrière, il va y avoir tout ce qui est, quand on crée un ordre, il faut le répéter pour savoir, un, que le capitaine a bien entendu que vous aviez entendu répandre l'ordre sur le bateau. Quand on met les cordes, on les fait en chantant pour que les autres à côté chantent en même temps que vous, et vous savez que vous allez au même rythme. On parle de cordage et tout. Du coup, il y a des trucs qui sont vraiment très très cool, mais c'est vrai que le drame à la fin, quand il arrive, il prend un peu de cours parce que l'élément le plus grave qu'on a eu jusqu'à présent, c'est un vaisseau de guerre cubain qui s'approche un peu trop près d'eux. Et surtout, la partie tragique à la fin, elle prend le temps sur justement ces personnages qui vont être laissés derrière, qui vont mourir dans ce bateau. Et le dernier quart d'heure en film de procès, il est assez, entre guillemets, audacieux, parce que finalement, il change vraiment le ton du film qui était passé de film d'aventure à un instant film catastrophe et d'un coup film de procès. Du coup, à la fin, on est sur deux tons qui s'enchaînent, qui créent un peu un faux pas au niveau de ce que le film propose, alors que c'est un beau film, je trouve, même si la critique l'a reçu, et le public l'a reçu de manière assez froide.
On rappelle que L'âme de fond est signé Ridley Scott et qu'il est disponible chez ESC Éditions.
Tout le monde peut toucher le fond. Ce qui compte, c'est de très vite remonter.
Écoutez Culture Prouille. Mais après le bateau, moi je vais vous emmener en voiture, les gars. Je vais vous emmener en voiture. Alors, parfois, les cinéphiles comme ça, nous, on se dit on va réhabiliter un film. On le fait souvent, hein. On le fait souvent dans cette émission. On vient de le faire à l'instant avec L'âme de fond. Moi, j'avais un souvenir quand même pas terrible du Driven de Reni Harlin. Un film de 2001, mais un film avec Stallone. Bon, là, et Burt Reynolds, quand même. Et avec Estella Warren. Parce que Estella Warren, quand même, c'est comment dire, la vedette féminine du remake tout foireux de La planète des singes de Tim Burton. Mais elle est super belle, Estella Warren. Et il y a Gina Gerson, qui est aussi une excellente actrice et qui, en plus, ça tombe bien, c'est la brune méchante et Estella Warren fait la blonde gentille. Voilà. Donc, bon, alors. Je ne veux pas caricaturer, hein, mais bon, c'est vraiment ça. Et donc, du coup, je me dis, si Reni Harlin, quand même, c'est Die Hard 2, c'est Cliffhanger, hein, avec Stallone aussi, d'ailleurs. Je me dis, non, pas possible. Reni Harlin, Au revoir à jamais aussi, qui est quand même, bon, c'est un peu du Portnawak, mais quand même assez impressionnant comme film. Je me dis, c'est Reni Harlin. Il faut toujours donner une deuxième chance à un réalisateur qui sait manier sa caméra quand même, hein. Bon, qui lit pas ses scénarios visiblement, mais qui sait manier sa caméra. Alors bon, là donc quand j'ai su que BQHL ressortait Driven dans une copie alors sublime en plus, hein, c'est super beau et vous allez en prendre plein la vue, Donc moi, je voulais revoir ce film. Je me dis, c'est pas possible. J'en ai un souvenir vraiment pas terrible. Et en plus, il y a Stallone, quoi. Et moi, Stallone, c'est un acteur, réalisateur que j'adore. Vous savez, si vous écoutez cette émission depuis des années, puisqu'on a fait pas mal d'émissions sur lui. Et alors le film, il faut savoir quand même qu'il a démarré sous de mauvais auspices, parce qu'au départ, l'idée, c'était pour Stallone et Rainier Harling de refaire un film, parce que Cliffhanger, film sportif, escalade, de refaire un film un peu dans un autre univers, comme ça, du sport. Et ils avaient porté leur attention sur la Formule 1. Seulement, quand ils sont allés voir les responsables de la Fédération internationale des sports automobiles, ils leur ont demandé tellement de pognon que du coup, ils n'ont pas pu faire un film dans le milieu de la Formule 1. Il faut croire que Brad Pitt a plus d'argent. Voilà. Mais là, c'était juste pas possible. Et quand tu ne fais pas la Formule 1, tu fais la Formule 3000. Voilà, la Formule 3000, oh, ça va vite quand même, attention, hein, qui est une sorte de championnat parallèle, hein, à la Formule 1, qui est très très suivi aux États-Unis, qui a ses stars, et qui est aussi très très spectaculaire, évidemment. L'histoire, c'est celle de Joe Tanto, qui est un coureur automobile qui a abandonné la compétition en pleine gloire, parce qu'il a eu un accident, le pauvre Joe. Et donc, il est à la retraite. Et puis, son vieux pote, Carl Henry, lui demande de servir d'entraîneur et de mentor à son poulain, Jimmy Bly, pilote brillant mais versatile. Et toute ressemblance avec Rocky V de John J. Avildsen, qui n'était pas terrible non plus d'ailleurs, est purement fortuite, bien évidemment. Parce que, il faut dire quelque chose. Je ne sais pas ce qui s'est passé à Rainier Harling, qui a une maîtrise de l'espace et de la mise en scène qui peut être exceptionnelle dans l'action. C'est pour ça que je me dis, Rainier Harling qui filme des bagnoles, voilà, moi je suis pas du tout un fada de tout ça, mais je me dis là, ça peut être hyper impressionnant. Eh ben non, c'est un montage clipesque, c'est malheureusement, c'est tel que ça l'était dans mon souvenir, avec, c'est côté beaufitude, quoi, du truc, quoi, qui est gênant quand même, quoi. On aurait pu faire autre chose. Alors c'est moins naze que les Fast and Furious, hein, quand même, que j'ai vu les Fast and Furious, les gars. Je n'ai pas tous vu, hein, mais j'en ai vu quelques-uns. J'en ai conseillé à Thomas, qui a voulu me casser la gueule après. Mais par contre, c'est quand même tout aussi crétin. Alors surtout, il y a cette scène où les bolides vont tellement vite que du coup, les jupes très très courtes des femmes qui sont là. Alors là, la femme est uniquement objet sexuel. Je vous dis, la blonde est pulpeuse et gentille, et la brune, elle est donc brune et forcément méchante. Hein, voilà. Jolie aussi, hein, parce que Gina Gerson, c'est une belle femme. Et la voiture passe et ça soulève les jupes très courtes des filles. On voit, leur popotin. Voilà. Donc tout cela est très élégant, mais où vont-ils chercher tout ça? Moi, je me dis que les mecs qui ont fait Fast and Furious, ils ont découpé en 12 volumes l'histoire de Driven pour faire 12 films. Hein, voilà. Et je suis quand même un peu déçu pour l'ami Stallone. Et je pense que ce film, il faut le voir au deuxième degré. Alors, c'était certainement pas l'intention au départ. Mais je pense que le film, il est drôle involontairement. C'est presque une parodie du genre. Assumé, un peu comme le sera le Fast and Furious de James Wan, qui pour moi est une parodie assumée, qui est le plus réussi de la série. Et qui là, on est dans la parodie assumée. James Wan s'amuse en fait de la série Fast and Furious. C'est Driven, c'est un film de Rainier Harling. Il a fait mieux, hein, comme Stallone d'ailleurs, hein, avec Sylvester Stallone. C'est quand on est fan, on regarde tout. Et malheureusement, je reconnais que c'était pas ma meilleure idée, celle-là. On va terminer sur les deux films. On reste dans les années 2000, avec un film de 2003, tout d'abord, le dernier John McTiernan, en fait, pour le cinéma, puisque il s'est passé ce qui s'est passé. Hein, on en a déjà parlé dans l'émission, en particulier avec Yael Sada, à l'occasion du livre sur McTiernan qui est sorti au Feu Sacré Édition. Et là, c'est Basic qui est sorti chez ESC Édition et qui est donc, Damien, comme un peu tout à l'heure, le film dont tu as parlé, Sens Unique. Là, c'est pareil, c'est encore un thriller en milieu militaire.
Nous voici de retour à nouveau dans un trailer, en effet, en milieu militaire. Basic de John McTiernan, c'est une histoire qui va assez vite. En fait, dès le départ, on est un peu plongé Bah, dans un exercice d'entraînement de Rangers au milieu d'un ouragan au Panama, parmi les 6 militaires plus leur autoritaire sergent West qui vont faire cet entraînement un peu bizarre, bah, en fait, il n'y en a que 2 qui vont revenir et c'est sur les 2 qu'on va compter pour raconter l'histoire. Sauf que... bah, il y en a un qui est blessé, il est à l'hôpital, on ne peut pas lui parler. Et l'autre qui est présent, il refuse de parler si ce n'est un Ranger. C'est à ce moment-là qu'on va faire appel à Tom Hardy. C'est son surnom, ce n'est pas l'acteur. L'acteur, c'est John Travolta avec de magnifiques abdos dans le film qui débarque en fait pour mener enquête parce qu'il est très doué pour savoir... il est très doué pour les interrogatoires et réussir à dénouer généralement ce qui est faux ou vrai. Il arrive à capter généralement quand les gens sont étranges sur un point ou non, ce qui est parfait. Et pour mener justement son enquête, il va être accompagné de lieutenant Julia Osborne qui est jouée par Connie Nelson. Alors les deux, ça va être notre duo qui vont mener la barque durant le film. Et ce qui est intéressant, c'est que le film en fait va reposer sur les flashbacks, c'est-à-dire qu'ils vont interroger quelqu'un, quelqu'un va raconter l'histoire et au départ on se dit c'est juste des flashbacks jusqu'à ce que quelqu'un commence à raconter une histoire autre et qu'on ait aussi un flashback et on comprend qu'en fait non, selon la personne qui raconte l'histoire, on a une histoire différente qui va être livrée, ce qui en fait un thriller qui est très très cool parce que c'est un film qui va reposer sur plusieurs flashbacks et plus on avance, plus on commence à faire confiance à certains personnages et plus on avance, plus on commence à ne plus faire confiance à aucun personnage, ce qui est toujours un excellent point dans un film qui est censé être un trailer qui joue sur la confiance parce que nous ce qu'on veut savoir au final c'est la vérité, c'est pourquoi est-ce que sur 7 personnes lâchées dans la jungle il n'y en a que 2 qui sont rentrées et pourquoi ces 2 n'ont pas du tout la même vision et la même version des faits. Et plus le film avance, plus on se rend compte que le problème c'est peut-être pas seulement ces 2 soldats mais c'est peut-être toute la base militaire en elle-même. Alors, comme je vous l'ai dit, on retrouve Travolta dans le rôle de Tom Hardy qui joue super bien. Il y a un autre acteur qui va être intéressant, c'est celui du tyrannique et autoritaire sergent West qui est joué par Samuel L. Jackson. Ce qui fait qu'on retrouve notre beau duo de Pulp Fiction. Pas dans les mêmes plans, mais...
Et tu retrouves le beau duo de Face Off de John Woo avec Connie Nielsen et John Travolta qui est Connie Nielsen, elle est un peu abonnée au rôle avec John Travolta pendant une période de sa carrière.
Et c'est le retour des duos gagnants au final. Et le film, on voit pas le temps passer devant. Le début est un peu compliqué à se mettre en place parce que déjà on nous introduit l'événement assez vite, on se rend compte que l'événement s'est très mal passé et ensuite on nous présente Travolta qui est censé être un agent de la DEA, donc les stupes aux États-Unis, qui est mis de côté parce qu'on pense qu'il deal et très vite on se rend compte que dans notre affaire avec les 2 soldats, il y a peut-être aussi de la drogue qui est impliquée. Du coup, il y a plein de choses qui se passent et il y a un autre truc qui est cool, c'est les lieux, c'est-à-dire que certes, avec Travolta, toute l'opération d'interrogatoire se passe sur la base militaire, mais on reste pas juste sur la base. On va à l'hôpital, on retourne dans la cantine pour interroger notre suspect. On va à 2-3 endroits différents, mais tous les flashbacks se passent dans la forêt tropicale avec cette ambiance de pluie, d'ouragan qui fait que la tension augmente. Et même si les faits ont déjà eu lieu, le fait qu'on arrive à se rapprocher au fur et à mesure de la vérité, ça permet de garder la tension d'événements qui se sont déjà passés, et ça, c'est assez incroyable.
Et c'est un film qui est très écrit, parce que t'as beaucoup de scènes d'interrogatoire, mais il filme ça comme des scènes d'action. Mmh. Il maîtrise la caméra avec des mouvements de caméra pendant les scènes d'interrogatoire. C'est filmé comme des scènes d'action, du coup, on ne s'ennuie jamais. C'est pas plan-plan, champ contre champ. C'est incroyable comment il filme ça. Il y a une maîtrise du découpage, de la caméra. Moi, en le revoyant, j'ai trouvé ça dingue, quoi.
C'est sorti chez ESC Éditions, la copie est superbe. C'est un excellent film, et ça s'appelle Basic, et c'est signé donc John McTiernan. On va terminer, Thomas, par un film beaucoup plus récent, Promesse, donc les enquêtes du département V, Promesse, de Ole Christian Madsen, un film de 2024 qui est sorti chez Whiteside Video.
Les enquêtes du département V, Promesse, a été d'abord projeté au festival Reims Polar avant de bénéficier d'une sortie Blu-ray, après avoir fait un détour sur Internet chez Wildside. Donc, c'est le 6e film de la franchise. Il s'agit cependant du 2e à mettre en scène le nouveau duo d'acteurs qui succède à Nicolas Likas et Fares Fares. Ulrik Thomsen hérite des tourments de Karl Mork qui envoie Rose sur l'île danoise isolée de Bornholm pour répondre aux demandes répétées de son ancien collègue Christian Habersaat. Le policier se suicide durant son pot de départ en retraite sous les yeux de l'inspectrice. Plus tard, Carl, nouvellement fiancé, arrive sur l'île où lui, Rose et Assad, incarnés par un Afshin Firouzi qui tente de paraître aussi charismatique que l'acteur de Le Caire confidentiel, se retrouvent mêlés à une vieille affaire d'une jeune fille retrouvée morte suspendue dans un arbre. Ils découvrent que Christian Habersaat était obsédé par cette affaire. Au fur et à mesure que l'enquête avance, l'île va dévoiler bien des secrets. Dès l'ouverture, le cinquième réalisateur a s'attaqué à cette série Ole Christian Madsen par une série de plans courts accompagnés par une voix off, crée une atmosphère lugubre où une nature tantôt luxuriante, tantôt minérale, est aussi corrompue par des apparitions d'animaux morts. En effet, Promesse n'augure pas d'un film des plus rigolards, malgré quelques pointes d'humour disséminées ça et là. Les intrigues des enquêtes du département V se distinguent par des trames complexes et passionnantes et une tonalité assez sombre, et cet épisode ne fait pas exception à la règle. Comme souvent, il y est question de manipulation, de mysticisme et de secrets enfouis, avec en plus, cette fois, une réflexion sur l'art via un artiste raté et on va dire plutôt extrême. Et l'acte de création dans son acception la plus large par le biais d'une gourou incestueuse. Les personnages sont travaillés par leur passé, ces traces qu'ils laissent pour finalement prendre conscience que rien ne dure. Et sous les traits d'Ulrik Thomsen, le personnage de Karl Mork, plus apaisé, comme si sa colère l'avait enfin quitté, en prend alors conscience. Pour traduire les différents états d'esprit et ambiances du film, Ole Christian Madsen apporte un petit plus aux réalisations plus efficaces que réellement inspirées des films précédents, en choisissant d'insérer des flashbacks et des flash-forward en cohérence avec le propos sur un art qui tente de sublimer la mort. Le directeur de la photographie, Jørgen Johansson, crée aussi des atmosphères et environnements très différents, des intérieurs sombres et extérieurs colorés et lumineux. Ceux qui ont découvert le département V via les premiers films signés Mikkel Nørgaard préféreront toujours le duo incarné par Nicolas Likas et Fares Fares. Cette fois, le scénario prend une autre orientation et délaisse quelque peu le personnage d'Assad pour s'attacher à explorer la psyché de Rose, femme au caractère bien trempé, mais aux failles bien réelles. Après un cinquième film un peu faiblard, ce sixième épisode nous habitue plus à ce nouveau duo et se révèle être un film bien plus ambitieux que les, sur le plan de la mise en scène de la réalisation, sur le plan formel, bien plus ambitieux que les épisodes précédents. Donc les enquêtes du département V, Promesse, est sorti aux éditions Wildside.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et Radio Graphite. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone. Une émission animée avec Damien Demey, dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland, dit Le Loup-Garou Picard, and the last but not the least. Je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine.